Bien, bonsoir. C'est le numéro 1 d'une série qui s'appelle La Dernière Séance.
C'était la dernière séquence. C'était la dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé.
Bonsoir à tous, ou plutôt bonjour.
Je crois que c'est elle qui fait l'intro, on s'était pas
oui,
concerté.
On s'était pas concerté.
Oh là là, bonsoir ou bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de La Dernière Séance. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, nous sommes en effectif réduit, finalement, un peu comme sur Ant-Man et la Guêpe Quantumania.
Épisode avec le moins d'écoute.
Oups. Ça y est, il commence.
La fine équipe, donc finalement.
Donc
les
voilà.
Les conditions d'un flop sont réunies.
Nous sommes réunis aujourd'hui pour vous parler non pas d'un, mais de deux films. On va vous parler dans un premier temps de Super Mario Bros. Le film, puis des Trois Mousquetaires. Voilà, et puis ensuite, on va vous faire avant nos petites recos, parler des dernières petites news ciné qu'il y a eu très rapidement. Voilà. Et je vais présenter les invités évidemment. Bonjour Raphaël.
Bonjour, bonjour Antoine, merci pour cette invitation renouvelée, toujours un plaisir de participer au podcast. Je dis bonjour à tous nos auditeurs qui nous écoutent.
Oh, c'est long.
Et voilà, ce sera tout pour ma part, hâte de participer au podcast.
C'est déjà trop. Bonsoir Jean-Loïc.
Bonsoir.
Voilà. Voilà, au bout de quelques émissions, voilà, c'est précis maintenant. Bon, après, il va parler pendant une heure de Super Mario Bros. Le film.
Ah, Julien n'a pas été renouvelé, du coup.
Julien n'a pas voulu venir ce soir, tout simplement. Mais voilà. ce que je vous propose, c'est qu'on parle d'abord des petites news qu'il y a eu. On s'est concerté avant sur les news dont on voulait parler.
Très sélectif.
Tout d'abord, parler d'un petit sujet qui nous plaît tant, finalement. En tant que Potterhead pour certains.
Ouais, certains.
Il y a eu l'annonce de Warner avec leur nouvelle plateforme maintenant qui s'appelle Max et plus HBO Max. Une série en développement, reboot Harry Potter, qui se concentrerait du coup donc, sur les 7 années à Poudlard. Tout ça en format série. Et avec un nouveau casting, et du coup, ça ferait que ça adapterait mieux le livre, ou du moins, ce serait beaucoup plus long en termes de contenu que les films qu'on a eu au final. Qu'est-ce qu'on en pense de cette annonce? Je crois que Raphaël, il faut que tu en parles.
Terrible déception pour ma part. Potterhead assumé depuis des années et des années. C'est vrai qu'en plus, le film est fini depuis longtemps maintenant. Et pourtant, on se disait que des œuvres, pourquoi pas des adaptations en série de plein de sujets finalement autour de l'univers, ça pourrait toujours être sympa. La douche froide hein, pour la série annoncée
terrifiant.
Sur les livres, c'est vrai que je n'ai aucun...
Je crois que j'aurais préféré l'annonce d'un Animaux Fantastiques 4.
Mais justement, vraiment, en fait, c'est vraiment très décevant. Quoi.
On en parlait lors du premier, lors du podcast sur Black Panther. Je pense que cette annonce-là de la tristesse, je pense que c'est la conséquence directe du petit flop qui était le 2 et le 3 d'Animaux Fantastiques. Parce que s'ils avaient eu la confiance et qu'ils se disaient... Warner s'était dit, bon bah c'est bon, les univers, les spin-off, Harry Potter, ça marche de ouf. On peut continuer sur nous avec notre petit filon. Là, ils se sont dit, bon bah, les gens, ils aiment bien Harry Potter, mais pas trop des nouvelles choses qui vont un peu trop ailleurs. Du coup, on va.
La communauté est difficile, je pense. Je pense pas que ce soit la communauté des plus faciles. De là à dire que.
Je pense pas que les Potterheads soient difficiles. Non. Je pense juste que devant les Animaux Fantastiques, on peut réagir que comme ça, en fait.
Oui, bah, ils sont très difficiles pour rien aussi.
Après, en soi,
surtout les deux.
Ils ont osé faire quelque chose qui s'écartait un peu d'Harry Potter.
Non, ça suffit. Non. Le...
Ils ont osé. Après,
c'est dark pour rien.
Il y a du fanservice tout pété, c'est moche, on s'en fout des personnages et c'est pas bien.
Oui,
juste pas bien.
Le 1 était très sympa. Hein.
Non, le 1 c'est le meilleur.
Je crois que maintenant, je préfère regarder le 3. Genre, vraiment, l'année dernière, j'ai pas eu un si mauvais souvenir que ça du 3,
non, le 3
parce que j'y suis allé vraiment
du crabe trop marrant
parce que mais oui, mais parce que j'y suis vraiment allé en mode le 2 j'avais détesté, donc le 3 ce sera pas pire, et au final c'était un plutôt bon moment même si ça durait 2h30.
Oui.
Bon, les fans de Harry Potter sont compliqués et super chiants, mais par contre ceux qui sont super contents à chaque annonce et qui s'éparpillent pas du tout, c'est les fans de Star Wars.
Hein. Oh là là, la transition.
C'est faux, il y a pas pire commu que Star Wars, je crois. Je crois que c'est la.
C'est
dis
sûr.
Ça alors que c'est ma maison de cœur avec Marvel.
Bon, du coup, on peut en parler aussi parce que Harry Potter, voilà, de toute façon.
Voilà, je finis juste, mais Harry Potter, je suis très déçue et je n'arrive pas à savoir. Enfin, ils vont forcément faire des changements. Forcément, juste pour. Ils vont creuser dans certaines parties des bouquins, notamment les trois premiers qui sont les moins étoffés. Ils vont apporter des trucs sur certains personnages qui. Enfin, bref, ça ne.
Faut voir ce qu'ils disent pour rassurer sur le projet, hein. Oui, il y a J.K. Rowling. Enfin, J.K. Rowling, ok, c'est la créatrice de l'univers, mais elle est très contestée, cette personnalité.
Et surtout que là, en plus, elle a un rôle important. Elle
oui,
est productrice.
Mais, donc, ça rassure un peu sur la cohérence de l'univers. Mais bon, il faut savoir aussi les autres annonces, comme quoi il y aura un casting diversifié. Ok, moi, ça, on s'en fout, j'ai envie de te dire. C'est pas le truc qui va nous rassurer sur la qualité de l'œuvre.
Moi, surtout, ce qui m'inquiète un peu.
C'est vraiment la série à pognon, quoi.
C'est comment ils vont faire pour visuellement faire quelque chose de différent, en fait. Moi, c'est ça qui m'inquiète.
C'est,
je me dis,
c'est trop ancré, l'univers. Les films sont trop forts.
C'est trop récent.
C'est trop fort et c'est,
c'est trop récent et c'est trop exploité. Vous avez,
c'est
ce qu'on
ça,
disait
en fait,
avec
c'est
Raphaël,
exploité,
c'est que
hein.
Le merchandising aujourd'hui d'Harry Potter, ça marche du tonnerre.
Oui, Warner Bros. Studio à Londres et tout, ça
pour
marche.
Pour donner un exemple,
la
Châtelet Léal, là, il y a une boutique, c'est même pas une boutique éphémère, c'est vraiment une boutique dédié à 100% Harry Potter, qui est ouvert au plein centre commercial de Westfield.
Et il y en avait même eu une deuxième éphémère sur les champs, non ?
Ouais, et puis t'as niveau de... du merde, le où est-ce qu'on est allé voir Black Panther, c'était où ?
Oui, à Bercy Village.
Merci, je n'ai plus le nom. Il y a un,
ah,
bar,
oui,
y a un bar Harry Potter qui est ouvert.
Qui est super, d'ailleurs.
C'est une franchise hyper forte.
C'est super sympa.
Moi, c'est pour ça que ceux qui... Là-dessus, où je peux comprendre que ça va chialer, mais que ça n'arrivera pas, ça ne va pas remplacer dans l'imaginaire collectif les films. À aucun moment, la série n'aura l'influence qu'a eu les films. Bon, faudra en reparler dans 3 ans, mais...
En fait, je pense que ça va faire beaucoup parler au début avec les premières images et tout
ça.
Ça
va beaucoup flopper, quoi.
Et je... je pense que après.
Mais en fait, j'arrive même pas à comprendre à quel point ils se disent que c'est une bonne idée, en fait. C'est... Enfin...
Mais je pense que même eux savent que c'est pas une bonne idée, je pense juste qu'ils pensent pognon.
Oui, bah c'est pour ça qu'on a la résurrection de Twilight, on a une nouvelle série Game of Thrones annoncée. Ils
on pense pognon, mais comme, enfin, en fait, je vois pas à quel moment. Enfin, après, j'en sais rien. Comme on dit, on verra ça dans 3 ans, mais enfin, bon, on verra de toute façon.
Oui, en tout cas, c'est très triste comme annonce. Mais cependant, il y a eu d'autres annonces du côté de Disney.
Oui, durant tout le week-end, je crois, il me semble que c'était du 12 au 15 avril, se tenait la Star Wars Celebration.
Il me semble, tu connais très
non,
bien
sais,
les dates.
En fait, je sais plus si c'était, non, je sais plus si c'était du 10 au 13 ou du 12 au 15, comme une merde dans le genre. Bon, il y avait la Star Wars Celebration début avril. Attendez. début avril.
Ça y est.
Et est venu son lot d'annonces. Donc, notamment des précisions sur les séries en cours, sur les séries à paraître. Mais surtout, ça fait 3 ans qu'on n'avait pas de réelle annonce concrète. Depuis, les dernières annonces concrètes de ce niveau-là, c'était en décembre 2020, sur Star Wars, le retour de Star Wars au cinéma. Donc pour rappel, le dernier film qu'on a eu, c'était en décembre 2019, j'ai l'impression que c'était à 10 ans. C'était vraiment le dernier gros film pré-Covid.
Et en même temps,
le meilleur.
Qu'est-ce qu'on a envie de pas s'en souvenir de Star Wars 9
Ça, c'est vrai.
Ça restera toujours meilleur que le 8, mais on va pas en parler ici.
Par contre, c'est très grave ce que tu dis là.
Non, c'est pas très grave. Mais bon, c'est pas grave.
Oula, ouais, faut pas qu'on parte dans ce débat.
C'est bon.
N'en parlons pas.
Bon, ce sera en off à la limite.
Oh, c'est terrifiant ce qu'il vient de dire.
Oh, non, non, c'est bon. Et on a eu 3 films d'annoncer. Alors, à savoir que annoncer ne veut pas dire. Va sortir. Parce que, pour faire un petit
souvenons-nous du film de Taika Waititi.
Alors, le film de Taika Waititi qui a été révoqué par les journalistes, parce que sinon, on en aurait entendu parler de nulle part, de ce film. Le journaliste a demandé à Amy Pascal, pas du tout, comment elle s'appelle, Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, qui avait été mise à la tête par George Lucas juste avant qu'il se casse, il me semble, en 2012. A dit que le film se fait toujours, que Taika Waititi bosse dessus gentiment, qu'apparemment il a une vision complètement libre de son truc. Mais enfin bon, quand,
ah,
il, a
ça
les...
va être super.
Quand il a les rênes entières, enfin quand il a les rênes, ouais, Taika Waititi, on a bah, ça fait ça d'Hunter 4.
Donc Hunter 3.
Non, ouais, bon, ah, tu vois, c'est pareil, ça, c'est Star Wars, vite Star Wars, Star Wars 9, on n'en parle pas. Donc, on a ce film qui est en stand-by, il avait été annoncé en mai 2020. On a, c'était le film qui normalement devait sortir en décembre de cette année, le film Rogue Squadron, par la réalisatrice des deux premiers Wonder Woman, Patty Jenkins. Ouais. Depuis le four que s'était mangé Wonder Woman 1984, a raison. parce que c'était vrai, je me suis rendu, c'était horrible ce film.
C'est vrai qu'il était très long, très lent.
Ah, j'ai pas vu les scènes de combat, je me suis endormi avant. et pourtant, ils réussissent à chier leur truc alors qu'ils ont Pedro Pascal. Ça, c'est fort.
Les acteurs ne font pas tout, hein. Oui. On aura beaucoup de contre-exemples. Hein.
C'est, enfin, apparemment, c'est mort. De toute façon, Patty Jenkins, la Wonder Woman 3, se l'est fait.
Je pense que même sa carrière de réalisatrice, c'est compliqué en ce moment.
Ouais, c'est. Écoute, elle va être sur la paille. Pour rappel aussi, juste avant la sortie de l'immondisque Star Wars 8, Disney, tellement en confiance, dit oui, oui, bah, Ryan Johnson, il est super, on fera une trilogie avec lui.
Oh, c'est vrai qu'il y avait eu ça.
Bon, bah, officiellement, elle n'est pas annulée. Hein. Quand on la révoque, bah, Kathleen Kennedy, elle est en mode non, mais. Parce qu'il est beaucoup occupé en ce moment, il fait les couteaux tirés, vous comprenez.
Ouais, enfin bon, il y a 3 ans, il n'était pas occupé avec ça.
Enfin, il faut savoir que Lucasfilm a vraiment le don pour annoncer les trucs au bon moment. Pareil, le film par David Ebenioff, là, de Game of Thrones, les showrunners. Ouais, c'est super, on va faire un film avec eux. Bah, la saison 8 de Game of Thrones sort, ils se font insulter dans tous les noms. Disney leur retire leur film, oh, donc ça ne se fera pas. C'est... Bon, là, ce qu'ils ont annoncé, c'est assez concret. C'est-à-dire qu'on a une histoire, chose qu'on n'avait pas avec les projets des mecs de Game of Thrones et de Waititi ou encore de...
John Watts.
John Watts, ouais, on y reviendra si tu veux. Et...
Non.
Il y a une série avec John Watts qui sort l'an prochain.
Ouais. Ouais, mais je sais pas, on essaie de parler de...
Parlons
de bons réalisateurs.
Alors, j'ai plus les... Par contre, je me souviens plus des...
De
la réalisatrice.
Ah, bon.
On va parler des projets.
Attends, tu dis ça s'appelle comment ?
Ouais, il n'y a pas de titre. Ah. C'est... Non. Le premier projet est celui qui hype le moins. On va dire que c'est Star Wars 9.5, Star Wars 10. C'est un film sur le Nouvel Ordre Jedi. Donc, on aura le retour de Rey Skywalker. Pardon.
moi, je trouve ça trop cool comme annonce. Hein.
Ouais, bon, bah écoute. Ah. Hein. On a un Disney fag. Hein.
Flop.
Mais moi, je déteste pas le personnage de Rey, en vrai.
Non, l'actrice est sympa comme tout. Mais en soi, les personnages principaux sont sympas. C'est juste que ce dans quoi ils évoluent est nul à chier.
Oui.
Donc, en fait, on va voir ce qu'aurait dû être Star Wars 7. Ça veut dire le Nouvel Ordre Jedi. Enfin, une bonne histoire.
Ah.
vous pouvez vous mettre à couille gauche sur la table que vous allez avoir gros goût dans le film. C'est sûr. Ah. En tant qu'élève de Rey, je pense.
Bon, je trouve pas les films.
Oh, t'es trop nul.
C'est pas grave.
C'est ça, pas
je
grave.
Sortirai la réelle après. Donc ça, pour le coup, bah, ça peut être sympa. Parce qu'on a le retour de Rey. Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose de bien avec le personnage de John Boyega, parce qu'apparemment, il est en train d'être signé pour revenir.
Ah, c'est vrai ?
Ce qui est assez ironique, parce qu'il a chié sur la licence de A à Z en 2020.
Ah, il a pas signé pour revenir pour l'instant.
Non, mais il est en discussion. Ouais, t'inquiète pas, qu'il va vite. Ses petits principes, il va les remettre. Ouais. Oscar Isaac, je pense qu'il reviendra aussi, hein, mais malgré le fait qu'il ait passé de très mauvais moments avec la trilogie. Ça peut être sympa, si ça peut être les personnages des séries qu'ils nous ont apprécié à aimer ces dernières années, on peut les revoir au cinéma, ça peut être cool. En parlant de ça, se développe en ce moment sur Disney+, ce qu'on appelle le Mandoverse, donc plein de séries qui se passent entre l'épisode 6 et l'épisode 7 de Star Wars. Donc leur série de proue, c'est The Mandalorian. Et vous avez également avec ça la série Ahsoka, qui sortira en août 2023. Et une autre série qui est chapeautée par John Watts qui s'appelle Skeleton Crew.
Le chapeauté.
Oui. John Watts. Et du coup, par contre, les réalisateurs sont bangers. Hein, de la série. Ah ouais. T'as ceux qui ont fait Everything Everywhere All At Once.
Sur quelle série ?
Sur Skeleton Crew.
Ok.
Ils font un épisode. T'as Brice Dallas Howard. Bon, elle qui est capable du meilleur comme du pire. Hein. au niveau des épisodes de Star Wars.
Ah bon, il paraît que c'est souvent les meilleurs épisodes qu'il a fait.
Sa saison 3 a prouvé le contraire, mais bon.
Ah. Ouais, c'est vrai.
Elle avait fait un épisode avec, avec Jack Black. Bon, ils sont oubliables. En fait, si tu veux, c'est vraiment l'intrigue de dessin animé dans un épisode de série live action. Ça fait bizarre.
Ok, ouais.
C'est vraiment. C'est pas sûr qu'elle ait pu lancer. Et donc, un autre film qui est censé être la conclusion de cette série. Ce qui est assez audacieux.
Ah bah oui, ça veut dire que vraiment, si t'as pas vu les séries avant, tu ne peux pas voir le
Mandalorian, tu sais pas qui c'est. Le personnage de Soka, tu l'as jamais vu en série. Enfin, en live avant ça. Donc franchement, et c'est réalisé par l'égérie de Lucasfilm, à savoir Dave Filoni. Si tu veux, Dave Filoni, on dit que c'est le descendant spirituel de George Lucas.
Okay.
Dans tout ce qu'il fait, c'est très fanservice. Il a créé ses personnages et ses bébés. Il est critiquable sur pas mal de trucs, mais en gros, ses arcs, quand il le fait et qu'on l'emmerde pas, qu'il fait vraiment tout dans son coin, il gère. La série The Clone Wars a ses fulgurances grâce à lui. Et pareil pour la série Rebels, série d'animation. Donc voilà, série conclusion, enfin film conclusion, ce qui est censé sortir, alors selon toujours Kathleen Kennedy, c'est supposé sortir un an après le film sur Rey.
Ok.
Voilà. Ensuite, projet encore plus lointain, là on a un semi-titre, ce serait Dawn of the Jedi. Donc une période qui se passe très longtemps. En fait, si vous voulez, ils ont balancé une frise chronologique. Vous avez les épisodes de la République, donc c'est l'épisode 1, 2, 3. Avant ça, dans le canon de Star Wars, 100 ans avant, vous avez la Haute République, qui en gros se passera 100 ans avant l'épisode 1. Encore avant ça, vous avez The Old Republic, qui là, pour le coup, c'est beaucoup plus dans le passé. Et ils ont annoncé Dawn of the Jedi, qui est censé être une histoire sur les premiers Jedi.
Okay.
Et c'est par le mec qui a fait, aide-moi parce que j'ai plus son nom, Indiana Jones 5.
Ah, James Mangold.
Voilà.
Il est partout lui en ce moment.
Ouais, t'as vu, c'est donc.
Mais en même temps, c'est un Montréal, donc tant mieux.
C'est un très Montréal.
Parce que ça a l'air super cool.
Et ça veut dire que son expérience avec Indiana Jones 5 s'est bien passée. Pas bon, ouais. On disait ça pour.
Bah après, moi, au vu des premières images, ça a l'air très très cool.
À voir. Donc,
je trouve que ça a l'air sympa, Indiana Jones.
Faut espérer qu'on prenne une Indiana Jones et le crâne de cristal.
Oh, ce sera. En vrai, tu sais que genre je l'ai vu il y a tellement longtemps que j'ai pas de si mauvais souvenirs du film que ça,
ouais,
mais
ouais,
il paraît que c'était vraiment pas bien. Bon bah voilà, plein de petites,
et voilà, plein de petites annonces cool, hein.
Plein de petites nouveautés, un festival de Cannes qui va être tip top aussi avec plein de super films, notamment le Wes Anderson, en clôture le nouveau Pixar, Indiana Jones en hors compétition, le nouveau Martin Scorsese aussi. Le premier épisode de The Idol, la série avec The Weeknd et Lily Rose Depp. Attention.
Stop.
C'est si long. Merci beaucoup, JL.
C'est une bière, la Valse de Marne. Bière bio.
On va passer très très vite fait parce que là, on est déjà à presque 20 minutes d'enregistrement, dont 17 où JL a parlé de Star Wars.
Ça c'est très long, j'aurais pu abréger.
On va passer aux petites recommandations. Je vais faire ma petite reco en premier parce que j'avoue j'avoue que j'ai vraiment pensé tout à l'heure, j'avais pas de reco parce que je vais tellement peu au cinéma en ce moment que je ne vois
ça
pas
tient
de film.
Un podcast.
Ouais, c'est scandaleux. Du coup, à l'arrivée du Festival de Cannes et vu que un de ces films est en compétition. J'avais envie de vous recommander Moonrise Kingdom de Wes Anderson. C'est pas forcément son plus connu. On pense souvent à The Grand Budapest Hotel ou également Fantastic Mr. Fox ou même L'île aux chiens plus récemment ou même The French Dispatch qui est son dernier film. Mais Moonrise Kingdom, c'est vraiment un petit bijou. De toute façon, de mise en scène, parce que Wes Anderson est trop fort au niveau de sa mise en scène. Il a un style graphique qui est propre à lui et qui est absolument génial. Après, il faut adhérer au style, je suis d'accord, mais pour moi, c'est vraiment le mec qui te dit qu'il kiffe le cinéma en un plan avec une mise en scène hyper léchée, hyper carrée, hyper géométrique. Et Moonrise Kingdom, du coup, c'est... un film très doux qui parle de deux adolescents en fait qui bah, qui s'aiment, quoi, qui ont un coup de foudre instinctif tous les deux en se voyant pour la première fois, et qui vont décider de fuguer de chez eux et de partir faire leur petite aventure, et en fait de vivre une vraie vie d'adulte. Et c'est un film absolument génial, avec un casting, comme à chaque fois avec Wes Anderson, de fou furieux, notamment avec Bill Murray, je crois qu'il y a Frances McDormand, je sais plus comment, merde, je suis désolé, Frances McDormand, celle qui joue dans No Man's Land, voilà, bref. Et il y a surtout dedans Bruce Willis, qui a un de ses derniers très très bons rôles, qui est vraiment hyper touchant dans le film, et voilà, c'est un petit bonbon, c'est vraiment un film, un feel good movie, même si je trouve que cette expression est vraiment à chier, mais c'est un film hyper, hyper beau visuellement, parce que y a des couleurs très vives, très très belles, et c'est une histoire d'amour vraiment incroyablement douce, légère et hyper naïve, et c'est vraiment deux adolescents qui feraient n'importe quoi pour pouvoir vivre leur amour tranquillement de leur côté. Et voilà, c'est une petite comédie d'aventure, si je peux dire ça. Et voilà, c'est un petit bijou de mise en scène. C'est un film vraiment incroyable. Et, ah oui, il y a Edward Norton aussi qui joue un chef scout dedans, qui est très drôle.
Hulk ?
Non. et voilà, Moonrise Kingdom, je vous le conseille. Il avait fait l'ouverture du Festival de Cannes l'année de sa sortie. Donc voilà, j'avais envie de suivre un peu l'actualité, vu que le mois prochain, en mai, là, ça va être le début du festival.
Son nouveau film qui sort aussi.
Oui, c'est pour ça que j'ai dit que... Putain, il a rien écouté.
Si, j'ai dit, c'est terrifiant.
Il y a son nouveau film Asteroid City qui est en compétition et qui va sortir en juin prochain, avec notamment Scarlett Johansson. J'ai trop hâte de l'avoir dans l'univers de Wes Anderson.
Trop mais donc, hâte. Mais... Univers partagé.
Ah, oh, mais donc voilà, je vous conseille Moonrise Kingdom, c'est vraiment un super bon film, et si vous voulez vraiment regarder un film qui va vous faire du bien, et ben regardez Moonrise Kingdom, parce que c'est vraiment super. Au prochain, à la prochaine.
Allez, bah moi je vais être plutôt beaucoup plus rapide, j'avoue. Je vous conseille aujourd'hui la salade grecque, qui est en fait la suite directe...
De Clapipiche ?
Et oui, exactement, la suite...
T'as tout regardé ?
J'ai pas tout regardé, non. Il me reste deux voilà. Épisodes, encore trois.
Ça tient pas. Il va tomber son verre d'alcool.
Il me reste
des jus de pommes.
Je suis à l'épisode 5 ou 6, je crois. Et donc en fait, c'est la suite directe, je ne sais pas si vous connaissez, de la trilogie Auberge Espagnole, Poupée Russe et Castel Chinois, qui était du coup une trilogie de Capliche. Et
de quoi de qui Capiche.
De Capliche.
Capiche.
Oui, oui, c'est ça, Raphaël.
C'est bon, parfait. Donc évidemment, si vous n'avez pas vu cette trilogie de films, je vous conseille vivement de la regarder avant de vous lancer dans Salade grecque, puisque c'est vraiment une suite directe. Et je vous conseille parce que vraiment, on ressent la mise en scène. Il y a la mise en scène du réalisateur qui est toujours présente, et le format série est bien abordé, on s'ennuie pas dans les épisodes, ils sont rapides et ils sont efficaces, et de bons acteurs aussi. Les acteurs de la trilogie du coup en film sont sont entre guillemets peu présents. Est-ce pour laisser place à la nouvelle génération.
Oui.
Mais de très bons acteurs, c'est bien joué, c'est joué juste, et franchement on se laisse embarquer et on retrouve le même esprit, donc okay. Ça fait plaisir.
Ça a vraiment un réel intérêt après la trilogie ou pas? Ça apporte vraiment quelque chose ou c'est un petit bonus ça qui se laisse regarder?
Plutôt un petit bonus, je trouve.
Ok.
Je sais pas si ça a un réel intérêt, mais c'est un petit bonus
qui
fait plaisir.
Sur l'échelle de Benjamin Gates, la série qui n'a pas été renouvelé pour une saison 2, on est tous très déçus.
Ouais, c'est vrai.
Podcast.
Non, je pense que c'est plutôt un petit bonus, mais c'est vrai que la trilogie, vraiment, moi, de films, j'avais adoré, et on l'avait regardé à plusieurs reprises, notamment avec mon père, où on trouvait vraiment que c'était des très bons films. Et là, c'est vrai que la série, que ce soit lui ou moi, du coup, on est tous les deux contents de regarder, et on regarde tous les deux rapidement, donc c'est un petit bonus, mais c'est très, très sympa. Et d'ailleurs, je crois que la saison est terminée et que ce sera qu'en une saison. Donc à voir après s'il faut une suite, mais je crois que c'est ce sera terminé à la fin de cette saison-là et que ce sera du coup juste.
As-tu dit où c'était disponible? As-tu dit où c'était disponible?
Et c'est disponible sur Amazon Prime Vidéo.
Tout à fait.
À la voilà. Depuis pas très longtemps, donc.
Et c'est un épisode par semaine, c'est ça?
Non, tout est sorti là.
Ah, tout est sorti, ok, ça marche.
Tout est sorti, tout est disponible, 8 épisodes.
Qu'as-tu pensé de Suzume?
Et oui, et je suis allée au cinéma. Mais
rajoute des trucs.
Je suis allée au cinéma voir Suzume il n'y a pas très longtemps. Et c'était une très très belle surprise et vraiment de très très beaux plans d'animation. Et mon film préféré devant Your... Enfin, j'ai préféré à Your Name et aux Enfants du Temps.
Ok. Donc, très bien.
Je vous le conseille. Il est actuellement en salle de cinéma. Et voilà.
Voilà, donc deux recos. Voilà, super. Qu'est-ce qui va nous sortir l'autre?
Alors, il a préparé ses notes.
Alors, j'ai un livre sur Star Wars en ce moment. c'est un univers étendu. je vous le recommande sans cet tome.
La tome de savoir. Alors.
La tome de savoir.
Mais non, mais tu m'as pas autorisé les livres et ni les jeux vidéo. Parce que je suis un fin lecteur normalement.
En vrai, maintenant j'autoriserai.
J'ai pas envie.
Allez, Jean-Louis, on t'écoute.
Alors, pour tirer encore plus sur la corde. Alors. Ce ne sera pas ma recommandation, mais je tenais à en parler parce que c'était le thème de l'ancien podcast qui était sur The Whale et en plus grande partie, de façon plus générale, sur les Oscars. J'ai pu me mater, actuellement disponible sur my canal, Everything Everywhere All At Once. Donc je t'avais déjà un peu parlé vite fait de mon avis. C'est vraiment, je ne m'attendais pas que, normalement je suis un peu rabat-joie là-dessus, mais il ne démérite pas son titre de meilleur film. C'est vraiment, il est très généreux dans ce qu'il propose, c'est frais. Ça aborde le thème du multivers avec vraiment de façon...
Mieux que Doctor Strange 2.
Mille fois mieux que Doctor Strange 2. De façon vraiment plus fun, moins prise de tête. Cependant, même si les acteurs sont extrêmement sympathiques durant tout le visionnage, à aucun moment j'aurais attribué le titre... Je ponctue mes phrases par des rots, excusez-moi. Comment j'aurais ponctué ça, enfin donné ça, le titre de meilleure actrice ou de meilleur second rôle? Qu'est-ce que tu racontes, toi? C'est que t'es biaisé.
Fallait donner la meilleure actrice.
Non, elle a eu son Razzie, ça suffit.
Non.
Et pour ma recommandation, vu que nous allons parler de Mario, je vais rester dans le thème des jeux vidéo.
Ah, j'ai cru qu'elle allait recommander Mario.
Moi aussi, j'ai cru.
Je vais vous parler de Tetris, qui est sorti du coup le 31 mars. Sur
la série
C'est pas une série, c'est un film.
Putain, mais tu sais que j'avais même pas capté que c'était sorti.
Et bah, c'est super. C'est avec, super. Avec arrête, je présente. Chut.
C'est... Avec Elton John. Le mec qui jouait Elton John dans Rocketman. Rocketman, c'est super. Deuxième Rocco pour moi. Regardez.
Ouais, mais non, mais c'est trop vieux. 2019.
Au lieu de Bohème Rhapsody de merde, là, regardez Rocketman.
T'es une merde. T'es une grosse merde. Alors en fait, ce qui est cool, c'est que MyCanal a fait une... Parce qu'Apple TV, à part les gens qui regardent la keynote comme notre présentateur, tout le monde, personne l'avait. Hein, c'était vraiment...
Il me juge parce que je regarde la keynote.
Encore c'est... plus drôle à chaque fois qu'il le répète. Et du coup, ils sont... maintenant, c'est disponible. Les séries, les films, vraiment, allez-y. Il y a des bangers sur Apple TV. Montemerde n'est pas là pour nous en parler, mais vous avez Ted Lasso apparemment qui est extraordinaire sur Apple TV et c'est vraiment la seule série qui est très connue ailleurs. Vous avez aussi Si, S-E-E, avec avec Jason Momoa. En gros, pour briefer le truc, c'est le seul mec qui voit dans un monde d'aveugle, je crois que c'est ça. Okay. Vous avez la série de science-fiction Foundation, qui m'a été vivement recommandée.
Il y a The Morning Show aussi, il paraît que c'est
apparemment, c'est excellent aussi. Et vous avez le magnifique film Ghosted avec...
Mais j'ai vraiment envie de le voir.
Je
ne
l'ai pas vu, du coup. Apparemment, moi, je n'y connais rien, mais apparemment, le film se prend des critiques assassines. Oula, c'était...
Oh, c'est dégueulasse, ça.
Ouais, mais bon, il faut que ça passe avec la
bref, ta reco.
Du coup, c'est un film donc vraiment ressorti récemment sur la plateforme... Pourquoi rigole
cette chaîne? Ah, je suis navrée. Non, mais en fait, c'est vrai que Jean-Louis, il y va quand même beaucoup, en fait. C'est ça qui... Voilà,
c'est ça qui fait mon charme et qui est pour ça que je suis le personnage préféré. Pardon, les commentaires. Alors, pour vous rassurer, c'est pas un film sur les tétrominos qui partent en vacances, trop marrant, waouh, le bloc carré et pote avec le pote, le tétromino en L. Non, c'est vraiment un film sur l'histoire d'adaptation des droits. Les choses qui normalement étaient un bordel inintéressant à expliquer, moi j'adore, c'est les histoires de contrats et tout, de merde. Telle compagnie n'a pas ce personnage du MCU parce qu'elle a été rachetée X années, en manque de... Enfin j'adore, c'est des histoires un peu bresson, on n'a jamais toutes les informations. C'est sur l'histoire d'adaptation de les droits de Tetris. Donc c'est réalisé par John S. Baird, réalisateur de Babylone. Le film de 2014.
C'était quoi le film de 2014? Babylone.
Ça s'appelle un film qui s'appelle Babylone. En vrai, j'ai rien trouvé de sa filmo de notable. Il a juste écrit. Ça m'a fait marrer.
Okay.
Et c'est dans le rôle titre, vous avez Taron Egerton. Et en gros, c'est très drôle parce que là, vous avez beaucoup de Nintendo qui revient dans tout le film. C'est des personnages majeurs. Enfin, c'est.
Est-ce qu'il y a Yoshi dedans ou pas?
Peut-être, faut voir le film. Okay. Et ils ont pris des acteurs vraiment très ressemblants à ceux de la vraie vie. Par exemple, il y a l'ancien directeur de Nintendo qui est assez connu quand tu te renseignes sur l'histoire du jeu vidéo, qui s'appelle Monsieur Yamauchi. Il lui ressemble énormément. Tu le vois dans le film et ça lui ressemble beaucoup. Et voilà, franchement, c'est bien monté, c'est rafraîchissant. Par contre, toi, je pense pas que t'aimeras l'entête du film, Antoine.
Okay.
Parce que t'avais pas du tout aimé Compromat avec Gilles Lelouch pour la vision un peu rétrograde et froide, et enfin classique, stéréotypée qui donne l'aide de la Russie. Là, ce sera.
Okay.
Voilà.
Moi, de toute façon, déjà, j'étais un peu déçu de base parce que je pensais que. Comment il s'appelle l'acteur principal?
Gilles Lelouch? Non. Ah, Taron Egerton?
Ouais, je pensais qu'il allait jouer des blocs de couleurs.
Oh, j'ai désamorcé sa blague en disant ça. J'en ai fait une pas marrante, hein. Mais.
Et il y a pas, enfin, dans les images que j'ai vues, il y avait pas ça, donc déjà je pars sur vraiment très mauvaise base.
Ah, faut voir, hein, ça se trouve tu seras surpris.
Il enfilera en costume.
Voilà donc. Tris. Est-ce qu'on est parti pour aller dans le monde merveilleux de Mohamed Champignon? Il y a des copyrights sur Deezer?
Non.
Ok, allons-y.
Je monétise pas les podcasts donc.
La pub. Mais dis donc, quand on se retrouve tous les trois, c'est l'heure du quiz, les amis.
Oh, yes.
Cette fois-ci, je serai l'organisateur. Yes.
Oh là là.
Oh là là.
Prenez surprise. Chacun le jouet de Casper, notre chat, qui sera office de buzzer.
Alors, JL avait teasé qu'il allait faire un quiz Mario pendant le podcast.
J'en avais pas reparlé.
On est déjà à 33 minutes de podcast, on a parlé d'aucun des deux films.
Ça se trouve, on va pas dire grand chose sur le film, qui sait.
Oups. Alors, du coup, c'est un jouet souris et il faut bien. Ça fait un petit bruit normalement quand t'appuies bien fort. Le jouet de rat fait mieux, il fait queen mieux. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes prêts, les loulous?
Oui.
Let's go.
Question 1. Qui est le créateur principal de la série de jeux vidéo Mario? Réponse A, Masahiro Sakurai. Réponse B, Shigeru Miyamoto. Réponse C, Hideo Kojima. Réponse D, Kevin Feige. Antoine.
La réponse B.
Raphaël.
Réponse A.
Oh putain, c'est ma meuf ça. C'est la réponse B, Antoine, bravo.
Nul, Raphaël, nul.
Non.
Un point.
Yes.
Tu auras le droit à une croquette.
Yes.
Question 2. Comment s'appelle la femme que doit sauver Mario, ou Jumpman à l'époque, dans le jeu vidéo Donkey Kong? Réponse A, Peach. Réponse B, Daisy. Réponse C, Pauline. Réponse D, Ailey Stenfield.
Ailey Stenfield, je t'aime.
Perdu, ça fait moins 1, tu retrouves à 0 point. 0 croquette.
Pardon. Oh, mon crush pour cette meuf m'a fait perdre un point.
Tu as dit. Peux-tu répéter la question, s'il
réponse
te plaît?
Réponse A, Peach.
Non, la question.
Comment s'appelle la femme que doit sauver Mario ou Jumpman à l'époque dans le jeu vidéo Donkey Kong?
Non, c'est bon, j'ai la réponse. Pauline.
Antoine.
Bah, j'allais dire pareil.
Oui, mais on va donner à Raph parce qu'elle est plus forte.
Ce qu'elle a dit d'abord.
Et oui, c'est Pauline, un personnage qui était complètement tombé dans l'oubli, à part avec une petite résurrection dans les années 2008.
Pour... Et qui est revenu dans la dernière mise à jour qui date d'août de Mario Strikers,
ah oui,
qui va quand même coûter 40 balles et auquel je ne joue pas des masses.
Le jeu vraiment où elle a fait un comeback, c'était Mario Odyssey.
Ouais,
où elle était la mère de New Donk City.
Ah ouais?
Ouais.
C'est, ah bah c'est j'étais le... pas jusque-là alors.
Ah bah voilà, je suis pas spoil, méga spoil, excuse-moi.
Super.
Et c'est à la base, du coup, c'est vraiment l'ex de Mario. Elle est considérée comme ça, l'ex de Mario. Enfin, c'est les puants qui savent ça. Et personnage qui fait d'ailleurs une apparition dans le film Mario. Voilà. Qui est la mascotte rivale de Mario ? Réponse A, Wario. Réponse B, Bowser. Réponse C, Sonic. Réponse D, la mascotte clitoris des JO 2024. Raphaël.
J'aime bien Sonic. Les notes d'humour.
Sonic. Votre réponse aussi, Antoine ?
Bah, le rival de
historique,
Mario.
La mascotte rivale historique. La mascotte rivale.
Bah, Bowser.
Mais tu es bête ! C'est pas une mascotte, Bowser. C'est Sonic.
Mais Sega Sonic, versus
Nintendo.
Mais
t'es super
Sonic
bête.
Sonic aux Jeux Olympiques.
Mais ils détestaient à la base la guerre. C'était Sonic Mario à l'époque.
Oui, Sega et Nintendo.
Voilà.
Bah, c'était pas clair ta question, j'ai trouvé nul.
Bon, Julien n'aurait pas réussi. Déçu. Quel est le jeu avec en son nom Mario qui s'est le plus vendu de l'histoire de la licence ? En unité vendue.
Oulala.
Tu veux répondre tout de suite ?
Je peux répondre sur les réponses.
Vas-y.
Mario Kart 8.
Paf.
Super Smash Bros. Brawl. Non, pas le Brawl, le Melee.
Elle a rien compris.
La licence Mario. Allez, on te relaisse une autre
avec
chance.
Dans son titre, Mario. Je veux bien préciser. Hein. Je sais que je suis pas vraiment le meilleur narrateur, mais,
oui,
mais bordel de merde.
alors, Mario 64.
Réponse A, c'était Super Mario Bros. Réponse B, Mario Kart 8. Réponse C, Mario Galaxy. Et réponse D, Hotel Mario. Si tu sais pas ce que c'est un jeu horrible.
Ok.
Enfin, c'est un jeu officiel, mais Nintendo s'est fait arnaquer sur les contrats. Et Antoine, tu as raison.
Évidemment.
Et j'étais très étonné. C'est Mario Kart 8 Deluxe avec 60,46 millions d'unités vendues. Sachant
c'est
que
énorme.
Ça prend en compte les ventes sur Wii U, qui étaient quand même. Alors, à Wii U, c'était un beat fondamental, mais un tiers des possesseurs de Wii U avaient Mario Kart 8, donc ça fait 8,6
millions. C'était le seul
c'était
jeu potable.
8,6 millions. Ah, t'as eu le Smash.
Ah oui, et non, il y avait Zelda aussi.
Qui est sorti en même temps que sur la Switch, mais bon, donc personne n'y avait. Le deuxième étant, je crois, Super Mario Bros. Avec 43,17 millions. Et Mario Galaxy qui était censé pas mal sur la Wii avec 12,80 millions. Alors, dernière réponse.
Non, dernière question. Oh là.
Ta gueule. C'est la bière, elle tabasse.
J'ai vu la réponse.
Non, mais attends, là, c'est une question à 4 trucs. Là, c'est le retour de ABCD.
Okay.
C'est la dernière. C'est quand même c'est combien de pourcents quand même ça,
oh,
ça...
C'est 7,5.
Non, 4,8.
Ah non, il y a
marqué
7,5 centilitres, quel con.
Non, c'est
75.
C'est pas grave.
Bon, allez.
Si je joue.
Ce podcast est si long.
Waluigi Wiggler sur Mario Kart. Ou plutôt si je jouais.
Oui,
je dois être considéré comme.
Plus mascasse.
Réponse A. Une personne ayant un gros manque de confiance en soi. Réponse B. Un fan cringe de Waluigi. Réponse C. Une raclure de bidet. Réponse D. Le chaînon manquant entre le singe et l'homme.
Les quatre.
Oui, c'est super.
Mais maintenant je joue plus Waluigi.
Ah mais t'es une merde évidemment. C'est pour ça que j'ai dit si je joue ou tu jouais.
Maintenant c'est Mascas Wiggler. Sur Mario Kart 8 Deluxe, c'est mon combo. Et Mascas c'est le boss.
Optimiser ces circuits là.
Mais tu dis ça parce que t'es nul à Mario Kart et que je te défonce.
C'est un Birio Kart quand tu veux.
Bon. Nouvelle variante du jeu que nous allons essayer ultérieurement.
Après le podcast.
Après 46 minutes de podcast sans parler des deux films principaux, nous allons parler, après cette magnifique introduction de Jean-Louis,
merci.
Nouveau
là,
film.
Bravo,
tu te tais,
Jean-Louis.
Raphaël, tu ne me coupes plus jamais la parole.
Tais-toi, Raphaël, ouais.
Nous allons parler du nouveau film des studios Illumination. Nous allons parler de Super Mario Bros. Le film.
Oh là là.
Trop bien fait, trop bien.
Bref, pas de stress.
Super Mario Bros. Le film qui arrive avec une collaboration entre le studio Illumination et Nintendo. C'était un film qu'on attendait beaucoup parce que on est nous trois, enfin même dans l'équipe de manière générale, on est fan de la licence de Mario. On adore les jeux. Mario Kart 8, nous avons acheté le DLC avec les nouvelles vagues de map.
Et on passe de super soirées.
Et on passe de super soirées.
Il faut que je suis la keynote et les Nintendo Direct. Attention.
Attention. Ah oui.
Les Nintendo Direct, c'est quelque chose quand même.
Bref, on offre un podcast Nintendo Direct.
Mais il faudrait faire un autre podcast. Sujet. Pas sur le cinéma. Donc du coup, Super Mario Bros. Le film arrive. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Jean-Loïc, peut-être, parce que je pense que c'est de nous trois, c'est peut-être toi qui es le plus enjoué sur le film.
Comment dire? Il n'y a pas grand-chose à spoiler déjà.
Ce film est un chef-d'œuvre.
J'ai pleuré d'admiration devant les rêves de puants qui nous ont sortis. Alors qu'on soit clair, c'est un film, vous fondez sur place si vous aimez un tant soit peu Nintendo, son histoire ou les licences Mario en général. Si vous êtes un père ou une mère de famille qui accompagne votre gosse juste parce que c'est le film d'animation 3D pour distraire, vous allez vous amuser comme devant un moment moche et méchant, ça va être sympa, voilà, sans plus. Mais c'est vraiment une plus-value, toutes ces références qui arrivent de nulle part. Les personnages sont pas très poussés ni explorés, y a pas un grand background, vous allez pas pour l'histoire. Clairement, la musique, un des points que va le plus reprocher Antoine, très peu de compositions originales. Un thème, je crois, qui revient de temps en temps, qui est sympa, mais qui n'est pas mémorable pour autant. On l'entend à la fin du générique de fin. Si tu vois dont je parle.
Ouais.
Ouais, je ne saurais pas le chantonner, mais bon. Voilà. Sinon, beaucoup de musique très commerciale. On dirait un peu qu'ils essaient de reproduire le succès de Shrek, début 2000, je trouve, dans les films utilisés.
Ouais.
Et qui peut faire un peu tâche, je pense. D'ici les prochaines années, on se dirait pourquoi ils ont fait ça. On s'amène dans l'ambiance hein, quand t'es dans la salle de cinéma, mais voilà. J'attends la suite, j'attends les autres licences Nintendo, j'attends le crossover Smash Bros. Hein, qu'on soit clair. Moi, j'ai été biberonné avec le mode histoire de Super Smash Bros. L'émissaire subspatial. C'était une cinématique, ouais. Une histoire un peu bresson, parce que c'était quand même sympa comme tout, mais il y avait quand même des moments où il y avait un peuple qui se faisait massacrer, t'avais c'était un peuple de robots, mais bon, ça arrêtait ce que c'est. Un Pikachu qui se faisait torturer pour avoir son électricité. C'était quand même rigolo. et si vous me faites ça, mais le film, vous voyez le record des puants, là, en mode cet homme est allé voir 102 fois Avengers Endgame au cinéma, il a brisé le record. Et ben ça, je vous le fais. Hein. Le film Smash Bros. Par Illumination, mais vas-y.
Ouais, ça serait incroyable.
Mais
ouais.
Je comprends pourquoi t'as pu être déçu par. Le film est fait durer 1h30, donc vous n'avez pas le temps de vous emmerder. Hein. Ça passera nickel.
Ça, c'est sûr.
Oula.
Moi, je vais pas être non plus détestable sur le film parce que je mentirais si je disais que j'ai pas passé un bon moment devant. En revanche, j'ai eu quand même 15-20 minutes où j'ai vraiment eu très très peur. C'est-à-dire que vraiment, les 20 premières minutes ont été très compliquées parce que j'arrivais pas à rentrer dans le film. Vraiment, tout s'enchaînait très vite et j'arrivais pas à rentrer dedans. En fait, pour moi, j'avais du mal à voir une histoire comme ça pour Mario. Et puis après, je me suis laissé prendre dedans parce que l'animation est très belle. Parce que quand on est fan de la licence, c'est quand même super cool de voir un film sur cet univers là. Tu parlais de la durée, moi je trouve que c'est mon plus gros point faible pour moi. C'est à dire que après je suis d'accord que c'est bien dans une époque où on a souvent des films qui durent minimum 2h30-3h d'avoir un film d'une heure et demie. Néanmoins, et là ça va faire un peu vieux con, mais ça va beaucoup trop vite. Genre, vraiment, c'est un film fait pour les enfants parce que, pour le coup, il n'y a aucun moment de répit et on ne s'ennuie pas. Mais le problème, c'est que je trouve que, vu qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer et que tout s'enchaîne très vite, toutes les vannes s'enchaînent très vite, toutes les scènes s'enchaînent très vite et on n'a pas vraiment le temps d'être impliqué à 100%. Donc c'est ça qui m'embête un peu. Après, voilà, il y a des refs dans tous les sens. Ça dégueule de refs partout. Peut-être un peu trop, mais c'est plaisant à regarder, c'est très très beau, Il y a notamment un personnage en particulier, on reviendra après dessus, mais qui a été exploité d'une manière dont on ne s'y attendait pas du tout. Et pour moi, ça fait partie de la grosse surprise du film, parce que là où, sur plusieurs vannes, et comme tu disais sur la musique, c'est assez conventionnel de films d'animation qu'on a l'habitude de voir depuis une dizaine d'années, là, le traitement de ce personnage en question, c'était une vraie surprise. Et pour le coup, vraiment, genre, je riais tout seul. Vraiment, j'étais tout à gauche dans la salle de cinéma. Et vraiment, c'est les vannes qui m'ont fait le plus rire du film. Donc, un sentiment assez mitigé, mais pour autant, voilà, un bon petit souvenir et un bon petit moment au cinéma. Raphaël.
Alors moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. C'est vrai que j'ai grandi tout pareil avec les films Nintendo. Et comme mes amis l'ont très bien dit, le film a beaucoup, beaucoup de références. Donc c'est vrai que quand on les reconnaît, on est juste content et on se dit « Ah !» On peut montrer du doigt l'écran et juste avoir les yeux qui brillent. Donc c'est vraiment chouette de voir ça à l'écran. Et je trouve que le traitement des personnages et la façon dont Mario est amené dans le film est pas si mal faite. J'étais contente du traitement de Mario. Après, bon voilà, c'est vrai que l'histoire est convenue, ils sont pas allés très très loin, on s'attend un peu à ce qui se passe, mais j'ai quand même passé un très bon moment. Après voilà, c'est vrai que bon, il y a des musiques, enfin il y a des points qui vont pas, mais c'est vrai que j'ai quand même mes yeux d'enfant et c'est difficile de dire du mal du film. Je sais qu'il est loin d'être parfait, mais j'ai vraiment passé un très bon moment et c'est vrai que ça me donne plus qu'envie de voir la suite et de voir ce qu'ils vont continuer à proposer dans l'univers, étant donné que le film est un réel succès. Je pense que si la collaboration continue, pour le coup, ça pourrait être vraiment très très sympa. Donc,
ça va continuer d'ailleurs.
Oui, je pense que ça va continuer. Donc, non, franchement, moi, c'était un très bon moment. Après, voilà, il n'est pas parfait, mais j'ai du mal à être objective. Voilà, je ne serais pas très objective. Si on a vu les films, enfin, si on a joué au jeu, on a forcément des références qui nous feront plaisir. Maintenant, si on n'a pas joué au jeu, je pense que on est beaucoup moins transporté et il y a quand même beaucoup d'éléments qui nous manquent pour vraiment apprécier. Et comme disait Jean-Loïc, c'est vrai que les parents qui amènent leurs enfants, s'ils n'ont pas grandi avec les jeux, je ne sais pas s'ils passent un excellent, excellent moment, quoi. Donc j'ai l'impression qu'ils ont quand même aussi beaucoup, beaucoup joué sur la carte de la nostalgie. Un peu trop d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire originale, quoi. On sent qu'ils s'accrochent beaucoup, beaucoup au jeu et que c'est un enchaînement presque de jeux, en fait, et de références au jeu.
C'est ça. C'est le catalogue de Nintendo en une heure et demie.
Exactement. C'est le catalogue et voilà, quoi. Il n'y a rien d'autre, enfin, entre guillemets, rien d'autre. Après, voilà, il y a certains traitements de personnages qui sont très sympas. Mais ça reste le catalogue, quoi. Donc, ils ne sont pas allés chercher une histoire. Je trouve qu'ils ne sont pas allés chercher une histoire originale. Et c'est un peu c'est ça, je pense, qui est un peu décevant au final. C'est que on s'attendait. Enfin, on ne savait pas à quoi s'attendre. Et en fait, on a vraiment le catalogue. Et même l'histoire au fond est un copier-coller d'un des jeux. Donc, voilà.
On peut parler d'un des points forts du film, pour moi. Le traitement de Bowser.
Évidemment.
On en spoil là ?
Je sais pas si on spoil vraiment. En soi, il n'y a pas des masses de trucs à spoiler. Mais je pense qu'en vrai, on peut en parler sans spoiler de Mario.
Ok.
Honnêtement. Okay, même les trois mousquetaires, je pense que ce soir, on va essayer de faire un truc sans spoiler. Je pense que c'est grave faisable.
Oui.
Ce ne sera pas le cas pour les Gardiens 3 le mois prochain.
Oh là là, ça va être super.
Ah, ça va être génial.
Le retour du MCU.
Encore. Un épisode sur deux, hein, mais. le traitement de Bowser qui au-delà d'être le méchant caricatural qu'il est dans les jeux, là ajoute un petit côté sensible que j'aurais pas pensé voir du tout.
Ouais, c'est vrai.
Qui marche extrêmement bien.
Très très bien.
C'est
vrai que je trouve qu'on a eu une bonne VF, donc ça marche bien. Je pense que Jack Black aussi en VO.
Mais moi,
c'est le doubleur qui marche le.
Je suis moins marqué, moi, par la version anglaise de Peaches, la chanson Peaches, Peaches. Je trouve que Jack Black, il est bon.
Je suis moins marqué, mais dans le clip, en tout cas, tu peux voir qu'il se donne.
Oui,
quoi.
Il a mal à la voix.
C'est pas Chris Pratt, quoi. C'est pas Chris Pratt en Mario.
Oui, on a vu le film en VF après, mais c'est vrai qu'on est au courant de de la polémique, entre guillemets, du fait que les Américains étaient un peu dégoûtés de leur VO, de leur voix originale. Et enfin, bon,
ça, c'était à l'annonce du trailer, je sais pas
voilà,
si
voilà, après, on sait pas du tout ce que ça vaut, quoi. Mais nous, on l'a vu en VF et c'était bien, pour le coup.
C'était
tout net. Oh là là.
Les comédiens de doublage sont...
Sauf que moult d'entre vous l'ont dans leur playlist, là.
Ah non, c'était drôle. Mais le traitement des personnages est bien, en fait.
Si je peux revenir sur Daisy, sur Peach.
Waouh.
Moi, je la trouve trop cool. On est quand même aux antipodes de ce que le personnage dans les jeux vidéo, juste pour...
Oui, mais ça,
c'est cool.
Il pouvait pas...
C'est cool.
Il pouvait pas la laisser en demoiselle en détresse.
Oui, ça marche plus aujourd'hui.
Moi, je trouve ça cool qu'elle soit archi badass comme ça.
Le père, enfin, je sais pas, du coup, tu perds un peu de l'intérêt de...
Non, c'est pas comme dans la vidéo.
Bah ouais.
La Peach que je connais.
Not my Peach.
Non, moi, je trouve que ce soit cool qu'ils aient fait un perso badass comme ça et qui, justement, même... Et un peu le maître padawan de Mario, quoi. Genre comment elle lui explique comment se débrouiller et tout ça dans le monde champignon. Non, moi je trouve que le perso de Peach est vraiment trop cool.
Une petite Peach un peu gourdette, là. Gourde. Hop.
Gourde ?
Ouais. Non, ça. Non.
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 Ça t'a un peu plu.
Non, ça me rêvait plus. Non. Mais Mario aussi, j'ai bien aimé. une Peach blonde, quoi. Il voulait une Peach gourde. Genre une Peach un peu con.
Tu vois pas de danse, c'est juste qu'elle est con.
Non, moi ça m'aurait fait
chier. Tu aurais pas dû te resservir en alcool.
Non mais, moi ça m'aurait fait chier.
Ouais, je pense que ça m'aurait fait chier aussi. Et en vrai, ça va.
Le traitement de Donkey Kong
trop
aussi
peu
est
Luigi,
trop bien.
Trop peu de Luigi, problème.
Mais Luigi
oui,
bien.
Oui, mais c'est pas grave.
Après, voilà, comme dit Antoine, le film dure 1h30, ils ont, mine de rien, introduit pas mal de persos. Bon bah...
T'as vraiment pas le temps.
Un univers sur Donkey Kong, là, enfin un film sur Donkey Kong dans son univers.
Donkey Kong, très cool. Hein.
Là, c'est vraiment Tropical Freeze. Là, ils ont vraiment refait les derniers Donkey Kong Country. C'est super top.
Mais
hein.
C'était trop bien. Moi, c'est une des deuxièmes vannes qui m'a fait le plus rire du film. C'est quand ils sont dans l'arène et que t'as Diddy Kong qui encourage son frère là et que du coup t'as le vieux papy.
C'est pas son frère, c'est son meilleur pote. T'as pas suivi la série animée des années 2000, toi.
Oui, mais ils ont le même nom de famille.
Il s'appelle... C'est le monde des Kongs, en fait.
Mon Dieu. Oh, le faux fan.
Oh là là.
Le 10 dans le film.
Mais bref, cette vanne-là, elle m'a fait trop rire aussi. Mais il y a des bonnes vannes dans le film. Il y en a, ça fait trop... premier, moi, moche et méchant, quoi. C'est-à-dire que c'est plus actuel non plus. Mais pour le coup...
Le fan de Mignon 1 qui se prononce, attention.
Je suis pas fan des Mignon 1, j'aime... Bien, le film Les Mignons.
Mais même
1,
Mario,
ça,
tu vois, Mario, je l'ai bien aimé.
Ouais, il est très cool.
Il était trop
un
mignon.
Peu peureux et ouais, tout. Voilà. Mais c'est vrai que l'univers de Donkey Kong est vachement cool. Et
il
puis
est
c'est,
vachement, ouais, très, très bien.
C'est à partir de ce moment-là qu'il y a les cartes qui arrivent et la scène des cartes dans le film, j'avoue que ça m'a fait un petit truc quand même.
Ah bah oui, bah,
grand fan
ça,
de Mario
en fait.
Kart.
C'est ça en fait, les références, ça a beau être un catalogue, bah t'es quand même content enfin, de voir toutes tes références à l'écran parce qu'en plus l'animation est tellement belle que enfin l'animation est vraiment très très chouette et du coup c'est bien en fait de voir ça à l'écran quoi.
Après il y avait pas Waluigi en Wiggler donc moi j'étais un petit peu déçu perso.
Il pose des pierres pour la suite quand même. Il y a une scène avec Peach notamment. Bon, et pareil, vous avez deux scènes pas génériques dans le film. Bon, une qui annonce du coup façon Sonic, les scènes pas génériques de Sonic, tout le monde aura la réponse.
La première scène pas générique qui est trop bien.
Ouais. Et voilà.
Sonic, ça marche bien.
Bah, moi, j'ai tout dit.
Bah, en vrai, oui. En vrai, c'est.
Non, mais voilà, mais une bonne.
Il fera 1h30.
Franchement, moi, c'est surtout que je trouve. Bah, ça fait un peu le premier où là, c'est. Un catalogue, mais je pense que s'ils continuent à faire des films, et ils vont continuer à faire des films du coup avec la licence Nintendo.
Ouais, Shigeru Miyamoto a déclaré tout à l'heure.
Incroyable quoi.
Il y a une journée qui disait que là il y aura beaucoup plus de collaborations de ce style.
Comment ? Ah bah oui, il y en aura plus. Bah j'espère, parce que franchement là ça peut être vraiment très très bien.
Après moi je pense que il y avait un truc aussi de. C'est la première fois que Nintendo collabore avec un studio d'animation.
Le film est en production depuis 2015.
Ah ouais ? Et bah ok. Mais je pense que vraiment ils se sont dit on fait quand même un truc stylé, hyper bien travaillé avec une animation de fou, mais en termes de scénario on tente pas des trucs hyper extravagants de fou
aussi.
Et c'est pour ça que je pense que les suites peuvent être hyper intéressantes.
Exactement.
Parce que ça peut annoncé d'autres choses, notamment avec la scène post-générique qui peut annoncer un changement de monde qui peut être, ouais, qui peut ouais, être pas ouais. mal.
Ça peut être super beau. Hein. Parce ouais. que l'univers en question, vraiment, ça a plein de palettes de...
Bah, ça fait Mario Odyssey, quoi.
Non, pas forcément. Hein.
Non, mais Mario Odyssey, t'as plein d'univers différents, quoi. C'est ça qu'il veut dire.
Ah, bah, oui. la ville où, est, où vit Mario de base, pour moi, c'est un peu le New York de Mario Odyssey.
Attends, tu parles de...
Ah
Non,
oui, New Donk ouais. City, c'est New Donk City.
Pardon, je n'avais pas les termes précis. D'ailleurs, c'est mon monde préféré pour l'instant de Mario Odyssey que j'ai fait. Je le trouve trop beau.
T'as pas fini le jeu.
Le monde de New York dans Odyssey, c'est ton préféré.
Ouais, je le trouve super beau.
Il y a plein de gens qui pensent ça. Alors, je comprends, tu peux tout faire là-dedans, c'est sympa.
Parce que t'as ton petit scooter, là.
C'est différent entre tu peux tout faire et c'est beau. Enfin, quand même, ça reste... Enfin,
oh là là,
on s'éloigne. Non, mais...
Laisse-le profiter, il est simplé.
Je suis simplé.
Bonjour. Enfin voilà, c'est ça. C'est... En fait, pour la suite, ça peut être incroyable. Mais, ouais, ben. Donc,
mais en tout cas, c'est très encourageant. Et puis surtout, ça fait.
Et c'est ça, je suis contente que ça marche aussi.
Ça fait des chiffres de fou. Ouais,
c'est en route pour le milliard là. On a 800 millions là quand on enregistre.
Non, c'est vrai ?
Ouais.
Oh la vache. Bah, c'est trop. En vrai, c'est trop cool.
Ouais, c'est trop cool.
En vrai, c'est trop cool. Et bah ouais, tant mieux. Hein. Surtout pour Illumination parce que en plus. Cocorico, c'est un studio français. Enfin, en partie français, je sais plus comment c'est exactement, mais.
J'ai regardé une vidéo là, juste avant de venir, c'est un bordel.
Ok.
C'est détenu par Universal, qui est même détenu par autre chose.
Ouais, mais à la base, le mec qui est derrière tout ça. Ouais.
De toute façon, en tout cas, le créateur des Minions. Les crédits de. Le générique défilant de ce film, il y a énormément de noms français.
Énormément. Ouais, voilà. Bah je crois qu'en vrai on a fait vraiment le tour de Mario. C'est pour ma part un film un peu décevant, mais qui se regarde vraiment très très bien, qui a une animation vraiment incroyable. Et on en parlait tout à l'heure en off, où je disais que en termes de texture, en termes de précision, ça se rapproche vraiment de la maîtrise des Pixar, je trouve Illumination, donc c'est hyper encourageant pour la suite et hâte de voir le prochain opus. Voilà,
toi être top.
Vous voulez non rien rajouter dessus?
Bah, je voulais dire que même si fan de Nintendo en général, t'as tellement de refs, pas de Mario hein, mais genre par exemple t'as le générique de la GameCube, enfin il a toute licence.
Ouais, Nintendo. Enfin,
voilà, Nintendo.
Ouais, ouais, ils se sont fait plaisir. Ils ouais, sont fait Nintendo. Clairement plaisir.
J'étais le premier à être en mode Leonardo DiCaprio. Hop.
Oui.
Dans le cinéma, j'étais le seul mec insupportable. J'en suis navré.
Mais
non. Ouais. Vraiment, il avait toutes les refs.
J'étais avec ma pote. Big up à Margot.
Et bah, écoutez, je pensais pas qu'on allait faire si court sur ce film. Vous voyez,
trois, nous sommes trois. Et en fait,
oh, j'ai la.
Mais ah, oh, la transition est top! Mais nous sommes trois!
Mais il n'y a pas le quatrième qui arrive pour dire eh non, mais en fait, voilà
comme ça. Il y a Casper le chat qui dort.
Exactement, Casper est dort et en fait, il est avec nous.
Je suis Arthos. Non.
Écoutez, après avoir parlé de Super Mario Bros. Le film, on va vous parler du deuxième plus gros film de ce mois d'avril. On va vous parler des Trois Mousquetaires d'Artagnan.
Ils sont sept, nous sommes trois. Il me semble à moi que nous sommes quatre. Tout ce que j'ai fait, que je vais faire, je l'ai fait pour la grandeur de la France.
Ils ne veulent pas de ma paix. Nous verrons s'ils préfèrent ma guerre.
Réalisé par qui ?
Réalisé par Martin Bourbillon. Et hop, tu l'as dans le cul. Réalisateur notamment d'Eiffel. Et de Papa ou Maman 1 et 2.
Où t'es ?
Je crois que c'est lui, oui, c'est Papa ou Maman 1 et 2.
Une belle ref.
Je ne considère pas Eiffel comme un bon film, pour le coup.
Ah, nous ne sommes pas d'accord.
Première divergence. Verge.
Ouais, première divergence.
Divergente ?
Peut-être. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a un film avec l'actrice de Divergente qui est en affiche et il n'y a pas son nom écrit. Il n'y a son nom écrit nulle part.
Aïe, aïe, aïe.
Donc voilà, c'est marrant.
Donc,
beaucoup après, c'est toi qui étais hype. Hein.
Après, alors oui, j'avoue que là, je vais peut-être être le plus grand défenseur du film parce que c'est un secret pour personne, mais j'adore le cinéma français. Et quand le cinéma français fait autre chose que des comédies racistes pas folles...
Il a dit le mot. Oh. Je pense quoi de SS-117-3 ?
Mais ta gueule. Je n'ai jamais... Il y a un running gag de JL où genre j'ai dit une critique sur OSS-117-3 et il me fait chier avec ça alors que j'ai jamais dit ça dessus. Bref, mais OSS-117-3, c'est vraiment pas bien. Alors que les deux premiers sont incroyables. Bref, donc je suis un très grand défenseur du cinéma français qui tente des choses et là bah, c'est le cas avec Les Trois Mousquetaires parce que j'ai pas souvenir dans un premier temps de deux films du même univers qui sortent la même année pour une production française. Déjà c'est assez audacieux
c'est à relever.
Et puis moi j'étais assez content de voir un film de KPDP réalisé par Martin Bourbillon qui voilà avait fait un Eiffel assez
discutable
et oubliable, je suis d'accord Raphaël, mais qui avait prouvé au moins que il savait filmer le gigantisme et il y avait vraiment des scènes assez grandioses dans le film et je trouvais que il réussissait vraiment à bien gérer ses effets spéciaux et je trouvais que c'était rassurant pour justement les deux opus des Trois Mousquetaires. Pour faire simple, je suis au final avec un petit peu de recul un peu déçu des Trois Mousquetaires d'Artagnan parce que vraiment j'en attendais beaucoup, c'est à dire que je saoulais JL avec ça. J'attendais énormément ce film et effectivement à chaque fois qu'on attend un film et bah parfois on attend trop et on est un petit peu déçu. Ça a été le cas pour moi parce que je pensais me prendre une plus grosse claque que ça. Néanmoins. Parce que, alors oui, donc aussi pour ajouter, je trouve qu'il y a un petit ventre mou au milieu et qu'il y a une première partie, enfin une première heure qui est vraiment bien maîtrisée et une deuxième où ça part sur une sous-intrigue qu'on voit pas trop arriver et qui a pas vraiment de sa place, je trouve qui est vraiment pas si importante que ça. Néanmoins, j'adore le casting. Je trouve qu'ils s'en sortent tous très très bien. On peut critiquer peut-être les dialogues et les jeux qui peuvent s'approcher d'un ton un peu nanardesque, mais moi je pense juste parce qu'on n'est pas assez habitué à voir des films de KPDP et voilà, c'est un langage qui était différent de celui du 21e siècle. Je trouve que le cast marche trop bien. Je trouve que la réalisation, même si certains vont dire que les plans séquences, on comprend rien parce que la caméra bouge dans tous les sens, ce qui est pas faux, mais moi je les trouve assez impressionnants. Moi je les trouve assez impressionnants.
C'est hypocrite.
J'adore les chorégraphies, j'adore que que la plupart des scènes soient tournées en décor naturel, les costumes sont trop beaux.
T'aimes bien la shakicam là qui fait comme ça là,
moi j'aime bien et je trouve
que c'est le premier à chier sur les frères Rousseau à cause de leur shakicam et là
je trouve que c'est mieux fait et je sais pas, je suis investi dans l'histoire, je suis investi dans les scènes d'action et j'ai passé vraiment un bon moment. C'est pas un film parfait du tout et voilà, comme je l'ai dit avant, je suis quand même avec du recul un petit peu déçu, mais j'attends énormément la suite qui sortira en décembre et je suis content de voir un film français comme ça qui tente des choses et surtout qui marche bien, c'est-à-dire que les gens vont en salle pour voir le film et c'est trop cool parce que bah ça va donner envie à des producteurs de tenter d'autres choses dans le cinéma français, d'autres choses de plus grand, de plus ambitieux, de plus audacieux. Et voilà, même si ce n'est pas un film parfait, je défendrai Les Trois Mousquetaires parce que bah, je trouve ça vraiment assez cool. Voilà.
Waouh, oh, quelle tirade.
Et voilà, salut à tous, c'était tout pour moi. Je laisse mes deux compères terminer le podcast.
Ouais, quand pas dire que c'était nul. Ouais. Il en recrache sa bière.
Et voilà, oh. Allez.
Non, je rigole.
Tu veux commencer ou...
N'inspire pas ce film, je sais pas quoi dire.
La fin.
Oh merde.
Non, je rigole. En vrai, déjà le casting est 4 étoiles. Hein. 5 étoiles, on peut se le dire. Romain Duris.
Le casting est top, ouais.
Vincent Cassel.
Le petit François.
Oui. Pio, mon petit Pio.
Petit François, c'est tête d'affiche. François, c'est
Louis Garrel.
Ouais.
Eva Green.
N'est-ce pas?
Oui, il a eu un petit malaise récemment, j'étais pas bien là. Il va mieux.
Qui? Jean-Marie Le Pen?
Ouais. Parle dans le micro, on ne t'entend pas, Antoine. C'est pas possible. Chaque podcast, je dois lui dire. Non, mais je le ferai, je fais le montage audio. C'est insupportable.
C'est vrai qu'Eva Green, elle était au top. Hein. Très, très bien.
Non. Moi, du coup, ma seule expérience avec les Trois Mousquetaires que j'ai, c'est le film de Paul W.S. Anderson. Mille fois meilleur que Paul Anderson.
Paul Thomas Anderson ?
Ouais, c'est ça. Son film radioactif là, qui va être nul.
Ça, c'est un son d'Imagine Dragon.
Ah merde, c'est quoi le film que tu...
Radioactive.
C'était quoi ta reco là, pour la future, le futur film là ? Planète Astéroïde ?
Asteroid City.
Ouais, c'est pareil. Je parle de ça. Ça c'est nul. Moi, je te parle de Paul W. Anderson, le mec qui monte merde et moi. On a un bon souvenir de ça. Avec des dirigeables là, dans les Trois Mousquetaires, c'est super. Fin des années pu et suivante des années 2000. Et c'est ça qui est super. Et du coup, les Trois Mousquetaires, bah, j'en savais rien. Je savais pas c'était vraiment comment ça se passait, comment la rencontre des personnages se faisait. Pareil, le début du film, j'étais assez emballé. Vraiment, la scène d'action. Sous la pluie, on y croit.
C'est vrai. C'est
trop
beau.
C'est vraiment une belle gueule, une belle esthétique. La rencontre entre les quatre mousquetaires est marrante. Oui. C'est rapidement fait, mais c'est...
un peu tiré par les cheveux, mais...
Voilà, c'est fait. Écoute, on n'en parle plus. Moi, je l'aime bien, aussi. Il y a pas mal de gens qui ont du mal avec, mais je l'ai découvert vraiment... J'ai vu peu de films avec lui, mais il m'avait vraiment beaucoup fait rire dans Encore.
Encore.
Et bah là, il me fait que de me perdre d'autant plus. Tu sais, j'arrive un peu en retard, mais j'ai peu de films avec lui finalement.
Regarde Le Chant du Loup. Par pitié.
Oui, il est prévu.
Regardez Le Chant du Loup de manière générale.
Un jour.
Regardez Mon Inconnu avec François Civil.
C'est bien.
C'est incroyable.
Problème principal du film selon moi. Bon, déjà, les scènes d'action un peu chaki-kamesque. Ils font l'effort de faire des plans séquences qui, je pense, sont découpés, mais...
J'ai vu des interviews du réalisateur, il paraît que c'est des faux plans séquences.
Oui, bah, généralement, tu t'es obligé. Enfin, c'était impossible, sinon. 1917, j'ai pleuré quand j'ai su que c'était pas un vrai plan séquence.
Dans quoi ?
J'y ai cru, moi.
Ah, 1917 ouais. Ouais.
Non, je déconne, j'ai pas cru. Comment dire ? Quand t'as une... Je connais rien. Je connais pas l'histoire, mais... Bon, bah, t'as une scène avec le personnage d'Eva Green. Après, t'as un personnage qui raconte une histoire sur une femme. Bon, bah, t'es pas con. En tant que spectateur, tu devines de qui on parle. Et... Enfin, les intrigues sont tellement tirées de fil rouge, fil blanc. C'est quoi l'expression ?
Cousu de fil blanc.
Ouais, cousu de fil blanc. Merci Raphaël, notre linguiste.
Notre linguiste.
Et du coup, tu te dis, bon, bah, c'est ça. Et autre vrai problème du film, le découpage est mal fait. Tu ne te rends pas compte du temps qui passe ou des voyages que font les personnages. Typiquement, le personnage est à Londres et en Angleterre, tu ne comprends pas. Genre, c'est une scène en bateau, ok, il s'est téléporté, ok, il s'est passé 4 jours. Dans le film, t'as un attentat. Scène d'après, t'es censé comprendre que c'est passé une semaine, qu'ils ont fait un rapport des victimes, qu'est-ce qui s'est passé, et là que c'est le débrief de l'attentat. T'es en mode, waouh, les mecs, c'est quand même, vous auriez pu mettre une scène entre temps quand même. Enfin, point positif. Moi, je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas aimé son jeu, moins, quoi que ce soit. Ouais, il en faut au moins. Louis Garrel, qui m'a fait rire dans le rôle de son Louis XIII, c'est ça ?
Oui.
Pas que d'histoire. Tu dois le savoir. pour le coup, j'ai trouvé vraiment assez juste dans son jeu, même si apparemment, selon certaines personnes, il a un langage du 21e siècle dans le film.
Ouais, mais bah, je trouve que ça
marche pas mal. C'était tip top. Et un autre point que je pense que va reprocher Raphaël, bon, les Trois Mousquetaires d'Artagnan ont le titre, certes, mais bon, Pio Marmaille et Romain Duris, oh, putain. C'est des figurants. Non,
même Vincent Cassel. Hein.
Non, Vincent Cassel, non, il a des intrigues qui gravitent autour de ce personnage. Sauf que, ce qui n'est absolument pas le cas avec les deux autres.
Oui.
Donc je suis pas d'accord. En plus, tu justifies ça par le petit D'Artagnan, ok, mais. Savoir
que
la suite, ça... ouais, mais la suite sera pas centrée sur Milady. Faut pas se foutre de ma gueule.
Bah...
Ce sera pas Eva Green, le personnage principal du deuxième. Hein.
Bah, vu comment elle est introduite dans celui-là, j'espère que si. Parce que, bon, dans celui-là, son personnage, il est un peu fantomatique. Hein. C'est vraiment, on te le tease parce qu'elle va avoir son film à elle.
Il aurait fait Star Wars. Qu'on fait le début du podcast.
Oui, c'est vrai qu'ils sont assez absents, ouais, au final.
Et toi, Raphaël, ton avis ? On arrête cet enregistrement. Rentre chez soi.
Eh bien, moi, j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment.
C'est faux, c'est absolument pas ce que t'as dit en sortant. T'as dit que c'était nul.
Non, c'est pas ce que j'ai dit.
C'est vrai. C'était nul. Antoine a raison.
Une technique de manipulation.
Ah.
Beaucoup disent l'inverse, l'extrême inverse.
Donc, je disais, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. C'est vrai que ça fait plaisir de voir un film qui change. Je trouve parce que les films de Cap et d'Épée, on n'en a pas si souvent que ça. En plus, un film français, c'était une bonne surprise. Et en plus de cela, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, je ne connaissais pas du tout les Trois Mousquetaires. Hein. Je n'avais ni lu les livres, ni vu les films.
Quoi, tu n'as pas lu l'œuvre d'Alexandre Dumas ?
Et non, je ne connaissais absolument
Dumas.
Rien.
Il a encore dit Dumas, vous avez entendu ?
Mais c'est Dumas ou Dumas ?
Putain, mais c'est Dumas et le personnage. Il s'appelait Dumas, Alexandre Dumas.
Ok, pardon.
Enfin, j'aime pas ce qu'on dit Dumas, tout du moins.
Tout ça pour dire que je ne connaissais pas, donc du coup, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et c'est vrai que j'ai passé un bon moment. Après, je l'ai rejoint sur le fait que j'étais très contente de la première partie. Moi, la rencontre, j'ai trouvé ça top. Il en rencontre un, il en rencontre le deux. Je me dis, oh, super, il va rencontrer le troisième. Ça, c'était vraiment, vraiment chouette. Les scènes d'action, bah, je rejoins un peu Jean-Loïc, c'est vrai qu'elles m'ont un peu sorti du film parce que j'ai trouvé ça un peu fouillis et j'ai trouvé ça dommage parce que j'avais juste vraiment envie de voir de belles scènes d'action, surtout que tous les plans sont très beaux et très bien faits dans de très beaux décors, donc ça m'a un peu sorti, c'est un peu dommage. Et c'est vrai que la deuxième partie, bon après je suis quand même je me suis pas ennuyée hein, pendant la deuxième partie. Hein. J'étais vraiment dans l'histoire. Mais c'est vrai que, bon... Tu te sépares un peu des quatre mousquetaires, au final, pour te concentrer sur deux et une histoire qui est secondaire et qui dure, finalement, la moitié du film.
Donc, oui, ça c'est ça. Alors que t'as un vrai conflit qui se prépare et qui pourrait être plus important à étudier, quoi.
Exactement, donc ça te c'est un peu dommage, puisqu'en plus il y en a des scènes, hein, je veux dire, où les quatre mousquetaires encore ils sont présents, justement, ils essayent d'empêcher quelque chose qui va peut-être arriver à l'un d'entre eux, et là t'as toute une scène où ils doivent après partir enquêter, donc enfin il y a plein de choses qui auraient pu être sympas, c'est vrai que là, mais je crois que c'est dans l'histoire originale, hein, et que c'est dans le bouquin, donc c'est logique qu'ils adaptent ça. Maintenant ça prend une part très très importante qui te fait un peu dévier, malgré tout. Les costumes sont magnifiques, le cadre en lui-même fait plaisir à voir au cinéma, et tu sors vraiment t'as pas l'habitude de voir ça, je trouve, au cinéma. Ouais. Donc je suis vraiment rentrée quand même dedans.
Ah, surtout qu'on l'a vu en IMAX,
ouais.
Et c'était très cool.
Ils foutent encore de la boue partout dans un film historique, c'est insupportable, ça.
Quoi ?
Tu vois, ça se passe dans le passé, de la boue dans Paris, tout le temps, partout, tout le temps.
Ouais, c'est vrai.
Pourquoi c'est un anachronisme ?
Mais non, mais c'est enfin, alors ça c'est pas de l'époque médiévale, mais quand tu représentais l'époque moderne, l'époque médiévale, tu vas toujours montrer la boue, de la bouillasse de partout.
T'étais pareil dans Vaincre ou mourir, JL ?
Vaincre ou mourir ? Je t'ai pas vu, c'est un film de raciste. Moi j'aime pas ça dans ce podcast. Non, par contre c'était ça dans The Last Duel. C'était très chiant.
Ok.
Voilà, c'est tout. Très bien. Continuez votre avis.
Je continue en disant que c'était un bon casting, n'empêche, qui faisait plaisir à voir à l'écran. Le parole aussi, les dialogues, j'ai trouvé ça chouette. C'était, tu sentais que c'était un peu, enfin comment dire, qui s'était adapté à l'époque, mais c'était bien fait. Je sais que Je sais que j'avais vu l'adaptation de Roméo plus Juliette, si je me trompe pas, où il prenait, c'est un exemple, mais il prenait en fait exactement les répliques de la pièce en fait.
Okay.
Et comme le film était adapté à une autre époque, bah, ça passait pas du tout. Enfin, moi, ça ne m'a pas du tout. Ça m'a...
Celui de Baz Luhrmann, c'est ça, ouais.
Avec Leonardo DiCaprio. Ouais. Ouais. Moi, ça m'a complètement sorti et j'ai vraiment trouvé ça absurde, alors que là, je trouvais ça vraiment. Plutôt bien fait, quoi.
Bah, ils ont réussi, même, tu vois, en gardant un peu le langage de l'époque, à le moderniser.
Exactement, ouais, exactement.
Et je trouve que ça passe bien. Après, je comprends qu'il y ait des gens qui adhèrent pas, mais je trouve que ça passe plutôt bien et que ça modernise le
ouais,
truc.
Ouais, non,
quoi.
Moi, c'est bien passé, donc...
Surtout quand t'as François Civil en personnage principal.
Voilà, ouais.
Enfin, voilà, il a dans la trentaine et tout, c'est bien que ce soit un petit peu plus moderne, quoi. Puis même la... Tu vois, je pense même à la relation qu'il a avec Lina Koudry dans le film. C'est pareil, dans un film d'époque comme ça, cette relation-là, elle est montrée de manière assez moderne. Et moi,
ouais.
Je trouve que ça passe bien, quoi.
Ouais, c'est vrai. Après, oui, un peu, peut-être un peu déçu de ne pas avoir vraiment vu, entre guillemets, les quatre mousquetaires. Parce que c'est vrai que j'apprécie beaucoup Romain Duris en tant qu'acteur, donc bon, c'est vrai que j'étais un peu peut-être déçue de ne pas le voir beaucoup, parce qu'au final, il n'a pas beaucoup, beaucoup de temps d'écran. Mais hâte de voir la suite et de ce que ça va nous réserver, puisque j'ai quand même passé un très bon moment. Et c'est vrai que c'est des moments comme ça dans le cinéma, ça fait très plaisir.
Ouais, et puis je pense qu'il y a un truc de... Enfin, j'espère que ça va être le cas, mais vu qu'ils ont tourné les deux films en même temps, j'ose espérer que... celui-ci est vraiment une sorte d'introduction pour qu'après on ait un film limite un peu plus long et où là vraiment c'était juste on plante le décor, les personnages et ensuite après on les développe davantage et,
ouais.
Et ensuite on termine sur un final grandiose.
Mais ce serait
quoi.
Chouette, ouais, parce qu'on avait un peu cette impression de... Enfin, c'était découpé quoi, vraiment, où le premier épisode ils se rencontrent, le deuxième épisode, bon, une sous-intrigue pas forcément... qui aurait pu être un peu plus efficace, je pense, et la fin qui est pas... Enfin, où...
Bah, qui hype pas tant que ça.
Ouais, c'est ça.
Oh, elle est nulle. La scène post-générique
non, bah, la fin, bah,
la fin et la scène post-générique, je trouve que ça hype pas tant que ça.
Ouais, c'est ça.
Finit vraiment comme un épisode de série, quoi. Pour un...
Ouais.
Ouais, après, enfin, ça, enfin, le film était, enfin, si, était très généreux et la fin était un peu bon, bah ok, très bien, bah, on sera là en décembre, du coup, merci.
Ouais, voilà.
C'est un feuilleton à la base, donc ça t'invite à revenir chaque semaine.
Ouais, mais ça aurait pu terminer sur un petit cliffhanger un peu plus marquant, quoi. Là, c'est en soi, est-ce que, en soi, la manière dont le film se termine, est-ce que t'as vraiment. Enfin, est-ce que c'est vraiment une raison valable pour venir voir la suite? Je suis pas si sûr.
C'est discutable.
C'est très discutable, hein, parce que pour le coup, toutes les autres intrigues, entre guillemets, sont résolues.
Bah, en fait, on te tease pendant tout le film.
C'est clairement une autre histoire, en fait. C'est la suite, mais.
On te. Gilles qui resserre de la bière. En fait, on te tease pendant tout le film un conflit qui n'a pas lieu, mais qui va avoir lieu dans la suite.
Ça rappelle le Hobbit 2, cette histoire.
Oh putain, je peux plus. Mais au final, j'ai pas l'impression qu'on termine sur un gros cliffhanger et que,
non,
tu termines le film en mode je veux absolument savoir la suite, quoi.
Non, pas du tout. C'est... Mais, et pourtant, ils le disent, hein, que le conflit, il y a une petite phrase hein, qui te fait comprendre que dans la deuxième partie, ce sera la guerre.
Saloperie d'anglais.
Mais ça finit pas là-dessus, quoi. Donc c'est vrai que la fin... enfin bref. Ça, c'est pas, la fin n'est pas la raison pour laquelle tu vas voir le 2, hein, je pense.
Ouais. Bah, je pense, en fait, pour le coup, et je pense que vous serez d'accord avec moi, ça joue vraiment sur l'attachement que t'as au personnage, quoi. Et au casting. Je pense.
Bah ouais.
Moi, j'adorais Pio Marmaille, surtout la scène où il dit « je suis bi
». Bah, Pio, clairement.
Qui tombe comme un cheveu sur la soupe,
voilà.
Cette scène.
Ça fait des articles un peu putaclic, en mode « ouah, trop
ah
bien
ouais ».
Bah non, mais c'était... Enfin, il y a plein de gens qui savaient que Pio Marmaille jouait un personnage LGBT qui
ça ne sera jamais utilisé dans les deux films.
Voilà, c'est juste... Et puis même, ça fait hors-sujet. Dans une société aussi, enfin, je sais que ça fait pas mal de débats, mais dans une société qui full religion et tout, tu te bats, tu, ça fait vraiment...
En fait, c'est la manière dont il le dit, voilà. Genre vraiment, il le dit en mode, ah, en fait, je suis bi.
Il y a une guerre de religion en France, on a la peur d'une guerre de religion, tu vas pas te balancer un truc aussi...
Ouais, c'est vrai que cette scène arrive un peu...
Vas-y, un cheveu sur la soupe,
Après, ça donne du développement au personnage, mais en même temps, on n'en parle pas non plus après. Donc, après, voilà, je vais dire une phrase de connard. Nous verrons dans la suite.
Voilà, voilà. Je vais faire une petite aparté. C'est exactement ce que j'ai peur avec la série Harry Potter.
De quoi avec la série Harry Potter?
Non, mais c'est juste une toute petite aparté. J'ai peur que dans la série Harry Potter, ils nous balancent plein de trucs comme ça pour qu'on se raccorde à l'époque, parce que les livres sont quand même pas très diversifiés. Et j'ai peur que dans la série, ils nous inventent des trucs ou alors qu'ils nous placent des trucs juste pour que ça adhère mieux à l'époque. Et du coup, c'est ça aussi qui m'inquiète.
Ouais.
Enfin bref, c'était une toute petite aparté.
Mais voilà, en tout cas, les trois mousquetaires, avec des défauts, ça on est tous d'accord dessus. Il y en a qui aiment plus le film que d'autres. Je fais partie de la première catégorie.
Non, après je pense que moi aussi je fais partie de la tête catégorie, hein, parce que franchement, les films de KTB... les Cap et DP sont pour moi très sympas. Maintenant, c'est vrai que c'est peut-être un peu déçu par rapport aux scènes d'action, quoi, parce que même... Il n'y en a aucune qui m'a marqué, alors que les scènes de bataille, tu t'attends à ce qu'elles soient très impressionnantes et juste à en prendre plein les yeux. Et pourtant, j'ai pas. Alors, je sais pas si c'est la manière de filmer à laquelle j'ai pas accroché ou si c'est un truc que j'ai pas accroché. Mais les scènes d'action, je les ai pas trouvées.
Les scènes d'action étaient plus terre à terre. Mais tu vois, par exemple, sans spoiler, après, c'est un peu dans la bande-annonce. Mais le climax du film qui se passe dans la cathédrale. C'est un truc un peu plus grand, tu vois, je trouve, en termes de scène d'action. Et je trouve que ça marque un peu plus, quoi. T'as un truc un peu plus grandiose. Et je pense qu'on aura...
C'était la pire scène pour moi.
Hein. Ah ouais ?
Ah ouais.
Bon, il parle pas dans le micro, mais apparemment, il aime pas la scène il aime pas la scène de la cathédrale. Moi, je la trouve très cool. Surtout qu'elle est dans la cathédrale de Meaux. Voilà, j'habitais là-bas.
Ouais, moi, tu vois, que ce soit cette scène ou celle dans la forêt, bof, en fait. C'est clairement pas ces scènes que je retiens.
Mais tu vois, je me dis, c'est une intro et on aura on aura vraiment de quoi se mettre sous la dent pour la suite. J'en suis quasiment sûr.
J'espère.
La meilleure scène, c'était celle avec le comte, j'ai oublié son nom, le comte anglais, où ils sont cinq à se battre.
Oh, je suis pas d'accord du tout.
Ah, si, en termes de combat, je trouve que c'était la meilleure. La plus lisible. Celle où t'avais le plus d'angoisse.
Mais c'est la moins impressionnante. Hein.
C'est la plus intimiste. Mais c'est la meuse. Du coup, t'es dans un décor serré. Et il fait pas en mode. Il a pas Parkinson, le caméraman. Okay.
Mais c'est ça, je suis tout à fait d'accord en fait. Parce que les autres sont tu ne comprends pas. Enfin, la scène dans la forêt, ils essayent un peu...
Vous êtes rabat-joie, vous dites pas ça quand c'est les frères Russo en bande de merde.
Bah ouais, Civil War, c'est super.
Ils essayent
c'est pas mal.
De te montrer un peu comment chaque mousquetaire se bat, et en fait, c'est tellement illisible que tu ne comprends pas. Donc,
Peux pas vous contredire, j'avoue. Mais moi, ça m'a pas dérangé. Je trouvais que ça rendait vraiment les scènes très dynamiques et vivantes.
Et jeunes, comme Macron.
Écoutez, je crois qu'on a fait le tour de ces deux films. Finalement, le quiz de JL aura duré plus longtemps. Ah bah bravo!
Mais c'était top! Ouais, le quiz. C'est moi qui le ferai. Trois bonnes réponses.
Ce sera sur les Gardiens 3, mais vous savez pas dire des trucs.
Vrai, alors attendez.
Calmez-vous avant de dire des choses normalement. Parce que moi, donc, pour parler...
Vas-y, dis-le. Dis-le aux auditeurs.
Pour parler un petit peu, comme l'année dernière, ça fait maintenant la troisième année.
Qui l'a invité?
Non, je ne suis pas invité. Rouge. Je travaille au Festival de Cannes en tant que, stagiaire, voilà. Et le mois de mai, je serai sur place. Voilà, en train de vivre le Festival de Cannes.
Quand sort Les Gardiens 3?
Les Gardiens 3 sort le 3 mai ?
Oui,
c'est ça.
Entre le 3 mai et le début de Cannes.
Oui, mais je pars le 6.
Oui, ce sera fait la VO.
Donc, normalement, Nous enregistrerons un podcast avant que je parte et comme ça je pourrai faire le montage et vous aurez un épisode au mois de mai. Mais dites-vous que c'est possible qu'il n'y en ait pas au mois de mai.
Non.
Mais voilà, normalement, tout se passera bien. Il y aura un épisode au mois de mai.
Il y aura Marvel, il y aura l'épisode.
C'est ce qui fait le plus de doute. De toute façon, après mai, juin, il y aura sur Spider-Man Across the Spider-Verse.
Oh oui,
ça va être 100% Marvel en juin, pour les prochaines semaines. En juin, il va falloir faire des choix. Ouais, parce que là, on a regardé tout à l'heure avec JL et Raph.
C'est un été chambé.
C'est un été... c'est n'importe quoi. Mais effectivement, pour le mois de juin-juillet, il y a un programme très très chargé. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse des choix.
Secret Invasion en juin, c'est important.
Dans tous les cas. Pas sûr. Si, on en parlera peut-être un petit peu de Secret Invasion.
Je suis sûr que t'en parleras.
En tout cas, on essaye de se retrouver le mois prochain en mai pour vous parler des Gardiens 3. Parce qu'on a très très hâte de cette fin de trilogie. On va sûrement tous chialer pendant le film. Et voilà, très très hâte de cette suite. Ensuite, il y a Spider-Man Across the Spider-Verse. Il y a Mission Impossible. Il y a le nouveau Pixar. Il y a Indiana Jones. Il y a vraiment énormément...
T'as dit Mission Impossible ?
Oui, j'ai dit Mission Impossible.
Le Fast 10, on met, t'as pas dit ?
Ah, c'est vrai ! Alors, on en fera peut-être pas un épisode, mais ce sera dans une reco, ne vous en faites pas.
Ah, d'ailleurs, je tiens à dire à mes chers auditeurs que...
Comment ça, tes chers auditeurs, oui. Tu les appropries ?
Bah, les chiffres sont parlants. Quand je suis là, nous triplons les vues. Non, mais
les écoute.
Je n'ai pas encore eu le temps de voir Shazam 2, mais ne vous inquiétez pas, ce sera nul doute ma prochaine reco.
Ah, ça serait super. Moi aussi, en étant au Festival de Cannes, je vais essayer de pouvoir voir des films en avant-première.
World premiere.
Comme ça, peut-être que je pourrais vous parler un petit peu en avance du nouveau Pixar si j'arrive à le voir. Après, il y a des films. Mais il n'y a pas d'embargo. J'essaierai de voir des films à la quinzaine et à la semaine de la critique aussi, parce qu'à la quinzaine, il y a le nouveau film de Michel Gondry avec Pierre Niney qui est diffusé. Donc pourquoi pas essayer de le voir.
Pierre Niney qui va jouer le comte de Monte Cristo, feuilleton d'Alexandre Dumas.
Trop hâte.
Pierre Niney, je n'aime pas ses acteurs.
Un peu mieux de son micro.
Ouais, on peut mute son micro, regardez Boîte
Noire.
Il est
beau Canet, vraiment.
Docteur Après, je crois que je suis plus en termes de beauté du côté de François Civil.
Pas moi.
Évidemment.
François Civil, il a une coupe que j'aime bien, mais en termes de beau gosse, Pierre Niney.
Mais qu'ai-je fait pour être si BG ? pour revenir au Festival de Cannes, voilà, j'essaierai de voir des films en amont. Je sais qu'il y a Acid aussi, le nouveau film de Juste Philippot.
C'est la suite de Titane.
Voilà, je vais pas parler. Donc Acid, c'est le nouveau film de Juste Philippot. On avait parlé du premier film de ce réalisateur-là avec Aubin quand on avait parlé de Gérard May, parce que c'était le réalisateur de La Nuée qu'on avait énormément aimé. Et donc là, il a son film avec Guillaume Canet qui est en hors compétition, donc j'essaierai d'aller le voir si c'est possible. Il y a aussi le premier film alors je suis désolé, j'ai plus du tout le nom de l'acteur, mais de l'acteur fétiche de Bong Joon-ho, qui est l'acteur principal de Parasite, qui réalise son premier film, et ça a l'air super cool. Et pareil, c'est en hors compète, donc j'espère pouvoir voir ça. Le Scorsese, vu comment il est attendu, ça m'étonnerait.
4h12 de film,
c'est beaucoup trop long. Mais voilà, j'essaierai de voir quelques films par-ci par-là pour pouvoir vous en parler un petit peu en amont, en avant-première. Il y a même des films du Certain Regard qui ont l'air trop cool, notamment un avec Virginie Efira. On adore Virginie Efira ici. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et on se retrouve donc le mois prochain pour refaire un épisode de Puant sur un nouveau film du MCU. On espère ne pas être déçu. J'espère vraiment ne pas être déçu.
Pour le coup, si ça marche pas,
ça va le faire. JL, j'y crois. J'y crois dur comme fer. Il y a James Gunn derrière. Ça va le faire. Ça va le faire. Les Gardiens 3, ça va le faire.
Il est en stress.
Ça va le faire.
Moi, j'attends pas grand chose du
Le 28 avril sort Star Wars Jedi Survivor.
on s'en fout. Oh. Voilà.
Bah non, c'est top, regarde, il est content.
Elle va me l'acheter. Ah, parce que toi, tu lui as acheté Hogwarts Legacy, du coup, elle va t'acheter Star Wars. Elle est une transphobe et moi, je suis un pur.
Par le micro.
Bref, on va mettre fin à cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve le mois prochain pour parler des Gardiens 3 normalement. Et si c'est pas le cas, on se retrouve au mois de juin pour parler d'autres choses.
Moi, je serais plus en vie. J'aurais rendu mon mémoire entre temps.
Allez, salut tout le monde.
Salut tout le monde.
Allez, ciao tout
Bisous.
Le monde.
Oh, bravo. Oh, bravo. Oh, c'était bien. Hein? Ah, ça on dort pas, ça. C'est formidable.
C'était la dernière séquence. C'était sa dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé.